Air de Vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Un Air de Vie. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Fred.
Bonsoir Kevin.
Bonsoir Fred.
Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette nouvelle émission, je voudrais d'abord revenir sur notre première pour remercier à nouveau nos deux invités, Marc et Jean-Marc Ferré, qui ont accepté d'essuyer les plâtres de cette nouvelle émission un peu touffue, quelques soucis techniques ayant chamboulé le déroulement prévu, mais on l'espère riche en enseignements. Notre but, n'étant pas d'apporter des réponses toutes faites, mais de susciter la discussion comme elle existe entre nous trois sur les sujets abordés. De plus, je voudrais continuer à éclairer vos lanternes en vous invitant à aller sur le site de l'émission où nous avons mis quelques liens qui vous permettront d'accéder notamment à une excellente émission d'Arrêt sur image sur le nucléaire, un hors-série de Charlie Hebdo sur l'escroquerie du nucléaire, je crois que le titre dit bien ce qu'il a à dire, sur le scénario Négawatt et enfin sur Enercop, un fournisseur d'énergie verte mis à l'honneur par la région dans le cadre de l'économie, le mois de l'économie sociale et solidaire qui a débuté le 7 novembre dernier. Nous sommes toujours à la recherche du podcast, mais je pense que nous allons le retrouver. Aussitôt qu'on le retrouve, on vous le met en ligne. Un air de vie, donc, une émission sur l'air du temps, l'air que l'on respire et le temps qui passe, le temps qu'il fait, et pour cette émission, le temps qu'il fera. En effet, aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser au réchauffement climatique et à ses effets sur notre ville. Après la pause musicale, nous vous proposons de nous retrouver en 2050 sur les hauteurs d'Évreux.
Dance, my love. Dance through the long dark night, through our black circumstance, into the broad daylight. Clinging together, we're as light as a feather, just as long as we dance. Sweet love, dance as I hold tight. We had a charmed romance, how we lit up the night. Swirling together, though through hell and bad weather, sewn together we two. dance, my dreams dance and bring on the night. Take my memory from me, dance, as I give up these few delights. Light as a feather into hell and bad weather, like a ghost in the night.
Nous sommes en novembre 2050. La période humide débute enfin à Évreux, après 7 mois sans une goutte de pluie. Les fortes chaleurs de la saison sèche ont pesé sur les corps et les esprits, presque autant que les épisodes de forte pluie l'année dernière. Nous n'avons pas encore assimilé ce nouveau climat. De nouvelles saisons ne cessent de se dessiner. Nos anciens repères disparaissent progressivement, assurément de plus en plus vite, mais sans bouleversement. Ceux qui, comme moi, étaient adolescents ou jeunes adultes au début de la controverse sur le réchauffement climatique sont des témoins privilégiés. Les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, se sont révélées proches de la réalité d'aujourd'hui. Pourtant, leurs adversaires n'étaient pas sans ressources et poids politiques.
Le réchauffement climatique, je vous donne rendez-vous dans quelques années sur le... j'en parlerai pas, il n'y a qu'à regarder l'hiver dernier, vous allez voir l'hiver prochain et puis on verra.
Alors justement, vous prenez, j'explique un peu votre théorie, vous prenez le contre-pied de la théorie sur les causes du réchauffement, vous n'êtes pas un fanatique, comme on dit, de l'effet de serre, vous dites que ce n'est pas avéré que l'activité humaine en soit responsable.
Mon point n'est pas là.
Vous avez été cloué au pilori effectivement par beaucoup de scientifiques.
Non. Pas par beaucoup de
gens. Par la majorité, en tout cas.
Mais non, pas la majorité des gens qui travaillent sur le climat, qui sont dans un lobbying. La plupart des scientifiques aujourd'hui qui étudient ce problème à froid, sans faire partie d'un lobbying, ils sont de mon avis. Moi, je pense qu'on ne... Vous avez qu'à me voir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Vous n'avez qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture, à mon avis. C'est une imposture scientifique, mais il y a un gang qui s'est emparé de ça et qui prospère, réussit à avoir beaucoup de crédits, à avoir des reconnaissances.
C'est un lobby.
Complètement.
Ce sont des chercheurs qui veulent qu'on leur alloue de l'argent et des crédits. C'est ça que vous
Bien
êtes...
Bien sûr, et surtout une certaine reconnaissance pour quelque chose qui n'a pas de substance. Mais si vous voulez, si je vous prédis ce qui va se produire en économie dans un siècle et que vous y attachiez de l'importance... ça veut dire que j'ai réussi une grande performance de communication.
Vous, d'ailleurs, au début de votre livre, il y a cette citation d'Anaximandre, « La science, ce n'est pas croire ce que tout le monde croit ».
Je n'ai pas de théorie sur le climat. Je pense simplement que ces théories sont une imposture. Et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects.
Alors ce réchauffement, il serait lié à...
Le réchauffement, quel réchauffement? Vous avez vu un réchauffement? Il fait de plus en plus froid. Il a fait froid en 2007, en 2008, en 2009, et donc il faut arrêter de dire ce réchauffement. Il y a un changement climatique, et moi j'ai été un des premiers à le dire, ce changement climatique, c'est des contrastes extrêmement forts.
Dû à quoi ?
Dû à une modification, comme il s'en est produit tout au long des temps géologiques. Vous savez que Greenland... Ça veut dire pays vert, et ben ça veut dire Groenland. Donc le Groenland était tout vert. Bon, on a connu une époque où la neige, la glace, une année sur deux, on pouvait traverser la Seine à pied. Donc c'est des fluctuations. Et ce que je dis surtout, c'est qu'il faut que l'homme s'adapte et qu'il prenne les mesures pour s'adapter. Or, par exemple...
Depuis sa création en 1988 par l'ONU, le GIEC a publié tous les 6 ans un rapport à destination des décideurs sur le réchauffement climatique. Il s'agit à partir des très nombreux travaux scientifiques publiés dans le monde entier de faire la synthèse des connaissances sur l'évolution du climat, d'en dégager les grandes tendances tout en tenant compte des incertitudes et des différents points de vue. Les différentes productions scientifiques ont permis au GIEC de bâtir progressivement à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, 6 grands scénarios. Les principales variables de ces scénarios sont l'évolution de la population, de 7 à 15 milliards d'individus en 2100, selon les scénarios, le développement économique, ralenti, axé sur le local, hétérogène, ou encore basé sur les technologies propres et économes en énergie. La Terre se sera réchauffée de 1,8 degré à 4 degrés en 2100, selon les scénarios. Le scénario dit B1 est celui dans lequel la population est la moins importante. Il décrit un monde dont la population culmine au milieu du siècle à 15 milliards d'habitants et décline ensuite. Et un monde dans lequel les structures économiques évoluent rapidement vers une économie de services et d'informations et de technologies propres et utilisant les ressources de manière efficiente. À mi-parcours aujourd'hui, en 2050, l'existence du réchauffement n'est plus discutée. Seule l'ampleur du réchauffement et sa durée le sont encore. Certes, la Terre a déjà connu des changements climatiques importants sous l'influence de différents facteurs, tels que l'énergie solaire frappant la surface de la Terre, la manière dont elle est distribuée à la surface du globe, le pouvoir réfléchissant des calottes glaciaires, les quantités de gaz à effet de serre et de poussière dans l'atmosphère, et la position des continents au cours des temps géologiques. Somme toute, les climats froids ont été plus fréquents que les périodes chaudes. Arrêtons-nous sur deux épisodes de l'histoire de la Terre. Le premier n'est pas sans rappeler un film américain. Il y a 600 à 700 millions d'années, la planète fut transformée en une boule de neige. Des pluies diluviennes entraînent pendant des millénaires le gaz carbonique de l'air dans l'océan. Finalement stocké dans les sédiments calcaires, le gaz carbonique fait défaut à l'effet de serre naturel, provoquant une chute de la température globale. De grandes étendues de glace se forment alors, lesquelles, en réfléchissant la lumière, refroidissent l'atmosphère, ce qui accélère la croissance des calottes glaciaires. Finalement, la Terre, véritable miroir, s'est couvert totalement de glace. Le second épisode s'est déroulé durant l'ère dite secondaire, il y a 250 millions d'années. La Terre est chaude et humide. Au pôle, il ne fait jamais moins de 10 degrés. La température moyenne et globale est de 6 degrés, supérieure à celle d'aujourd'hui, et le niveau des mers, 200 à 300 mètres, au-dessus de son niveau actuel. quittons le temps géologique pour rejoindre celui de l'homme, précisément l'Homo sapiens, apparu il y a 30 000 ans. Celui-ci a déjà connu bien des changements importants, qui n'ont pas de commune mesure avec celles que nous venons de décrire, mais qui méritent une certaine attention. La période qui court du milieu du XVe siècle au milieu du XIXe est particulièrement marquante. La température moyenne globale durant cette période a été inférieure de 1 degré à celle d'aujourd'hui. Plusieurs explications probables. Tout d'abord, le ralentissement de 10% de la vitesse du courant océanique, le Gulf Stream, à cause d'une trop grande salinité. Mais aussi une moindre activité solaire durant cette période. Le nombre de taches solaires que les observateurs ont enregistrées n'a jamais été aussi réduit qu'entre 1645 et 1715. Ce qui en a résulté est connu. Une avancée des glaciers alpins, l'embâcle fréquent de fleuve et des hivers terribles. Durant l'hiver 1709, la France perdit 4% de sa population. La période qui s'est ouverte avec la révolution industrielle est tout aussi marquante, puisqu'elle nous concerne directement et qu'il s'agit non pas d'un refroidissement mais d'un réchauffement. La principale cause de ce réchauffement depuis un siècle est donc l'amplification de l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable au maintien d'une température moyenne globale de 15 degrés. Une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers l'atmosphère terrestre reste piégée par les gaz dits à effet de serre, augmentant ainsi la température de la basse atmosphère. Sous cet effet de serre, la température de surface de la Terre serait en moyenne de moins 19 degrés. Trois grandes familles de gaz participent à l'effet de serre. Le dioxyde de carbone, le méthane, inséparable de l'agriculture, et les protoxydes d'azote, tels que le gaz hilarant. Le dioxyde de carbone est responsable à lui seul de 40% de cet effet de serre additionnel. Sa concentration est à un niveau plus élevé que celui atteint lors des épisodes climatiques extrêmes des 650 000 dernières années. Les activités principales émettrices de dioxyde de carbone sont bien sûr le secteur énergétique, l'industrie, le secteur forestier, l'agriculture et les transports. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, des mécanismes naturels assuraient l'absorption de la quasi-totalité du dioxyde de carbone qui était émis. Durant des millénaires, l'homme a brûlé du bois et labouré des sols, libérant du carbone emprisonné. Cette émission artificielle s'est effectuée à un rythme compatible avec l'absorption par les processus naturels. En effet, repoussant le bois fixe une quantité de gaz carbonique égale à celle qu'a libérée sa combustion. Depuis le milieu du XIXe siècle, ces mécanismes naturels d'absorption ne sont plus suffisants. L'équilibre s'est rompu, la concentration de gaz à effet de serre a augmenté, amplifiant l'effet de serre et le réchauffement climatique. Nous sommes en novembre 2050, à Évreux. La saison des pluies débute. Les quelques ondées du début du mois constituent la transition vers la période humide. La pluviométrie n'est plus celle que nous avons connue au début du siècle. Le nombre de millimètres a diminué de plus de 20%. Les pluies se sont concentrées sur 5 mois tout au plus, et les épisodes dits exceptionnels sont plus fréquents. La pluviométrie, qui était en moyenne de 600 mm par an au début du siècle, a diminué progressivement et plafonne depuis 4 ans à 400 mm. Les précipitations d'octobre 2012, 105 mm, ont marqué les ébréhiciens de ma génération, même si elles sont inférieures de 20% à celles que les ébréhiciens ont connues en mars 2001. La mémoire collective semble plus sensible à l'intensité des événements exceptionnels qu'à leur fréquence. Certains continuent à se référer aux inondations de Vaison-la-Romaine en 1992, Nîmes en 1998 et Lézignan en 1999. Or, depuis quelques années, les épisodes très pluvieux, c'est-à-dire les journées où la pluviométrie dépasse 190 mm, ne sont plus exceptionnels. Un épisode par an ces 4 dernières années. Corrélativement à cette prise de conscience du réchauffement et des risques, la surveillance de la pluviométrie et de l'ensoleillement est devenue un hobby à part entière. Les prédictions et paris des uns et des autres sur l'importance d'un prochain épisode exceptionnel reviennent fréquemment dans les conversations. Mais ce n'est pas seulement pour anticiper les dégâts, mais aussi pour jauger la qualité du vin qui sera produit l'année suivante à Évreux. La vigne est depuis quelques années présente dans la plupart des jardins de Saint-Michel. Elle poursuit sa migration vers le nord et l'est. La qualité du vin est le résultat d'une concordance heureuse et fragile entre terroir, conditions climatiques et savoir-faire. La modification importante des conditions climatiques a affecté cette alchimie dans les régions qui étaient traditionnellement vinicoles. Les cépages accélèrent leur cycle biologique. Malgré une adaptation des méthodes et du savoir-faire, les vins de ces régions ont perdu ce qui les caractérisait. Les raisins sont de plus en plus chargés en sucre et en alcool, et de moins en moins en acide. Le calendrier viticole est adapté pour éviter un degré d'alcool trop important qui nuirait à l'arôme. Certains vins, comme le Pinot Noir, se sont heurtés à leurs propres limites d'adaptation. Le pinot noir a disparu de la côte de Beaume, d'abord, puis des autres régions où il était implanté. Le climat de la Bourgogne est devenu de type méditerranéen. Dès la fin du XXe siècle, le pinot noir avait atteint ses limites d'adaptation pour produire des vins fins et élégants. Aujourd'hui, aucune autre région en France ne peut produire des vins semblables, puisque les spécificités se sont construites sur un territoire particulier.
On vient vendanger. C'est notre petite sortie.
L'année dernière, tu l'as pas fait.
Non, c'est l'année d'avant. Ah, mais je suis pas là tout à l'heure.
Moi, j'habite
fois.
Paris et mon ami m'a dit écoute, viens parce que c'est sensationnel.
Ah, oui.
Donc, on va attaquer les choses pratiques avec un panier et une épinette. Voilà. Et donc, on va aller vendanger la vigne. Donc, les enfants, si vous voulez couper la grappe, surtout vous attrapez le raisin par la tête ici, hein, pour pas vous couper et vous couper ici. D'accord ? Surtout, vous mettez pas vos mains comme ça sur la queue. Pour ensuite couper là. Là, vous risquez de vous couper le doigt.
Ah, moi, j'aime bien faire ça. Hein. C'est ce que j'aime le plus, c'est couper le raisin.
Fais doucement. Tu vas tout entendre. Avance un peu. Tiens.
Très bonne journée, très agréable. On passe un très bon moment. On revient chaque année et franchement, c'est un vrai plaisir. La petite s'amuse beaucoup, donc que du bénif, quoi.
Voilà, ça te jette.
C'est bien.
Bah pour l'enfant, c'est bien de participer à la vendange. Et puis après, bah y a la fête. Hein.
Merci encore à nos amis, des compagnons de l'asperge et du vin qui nous font encore l'amitié cette année d'être avec nous pour ces vendanges auxquelles, vous savez, nous sommes très très attachés. Vous avez vu que cette année, on a voulu que tout le monde puisse voir les vignes, parce qu'on avait mis l'an dernier les stands, donc on a préféré élargir pour que vous puissiez voir l'ensemble des vignes. Bonne fête des vendanges à toutes et à tous. Merci à vous, très bonne journée à vous. Merci.
Vin de Bourgogne ou de Bordeaux, mais celui qui, si l'on encense, c'est notre brave Piccolo, que l'on encense, c'est notre brave Piccolo.
Donc ça, c'est le foulage. Parce qu'on faisait du foulage parce que dans le temps, il foulait avec les pieds. Ils écrasaient le raisin avec les pieds.
Dans le fouloir. C'est l'asperge qui, si l'on cueille, elle picole au son bien-aimé. C'est l'asperge qui, si l'on cueille, elle picole au son bien-aimé. Qui, si l'on cueille, qui, si l'on cueille, elle picole au son bien-aimé. C'est tellement récent qu'on n'avait pas eu le temps de répéter, monsieur le maire.
Une fête du vin à Évreux. Nos parents et grands-parents ont connu, il y a un siècle, les coteaux de Saint-Michel recouverts de vignes, mais aussi en moins d'un demi-siècle leur disparition. Le nouveau climat, bien qu'instable, a favorisé ce retour sur ces terres argilo-calcaires. La passion de certains aussi, qui ont redécouvert des traditions vinicoles locales et sont allés recueillir savoir et équipement dans les régions qui produisaient du vin. Sans préjuger des croyances et pratiques de ceux qui se sont lancés dans la production du vin, la finalité n'est plus celle qui prévalait au Moyen-Âge, à savoir servir pendant les offices un vin, quelle que soit sa qualité. Non, les motivations sont tout autres et diverses. La fierté de produire soi-même du vin, faire renaître des pratiques anciennes en visant la qualité, conserver le savoir-faire des régions où la viticulture disparaît. Plusieurs associations se sont créées à Évreux. Elles regroupent des amateurs qui cultivent des pieds de vigne dans leur potager ou sur des terrains appartenant aux associations. Certaines ont acquis le matériel de vinification que des domaines du sud de la France n'utilisent plus ou ont fait appel à des œnologues qui œuvraient dans ces mêmes domaines aujourd'hui disparus. Les plus ambitieux ont tenté de créer une appellation dite Château de Trangis. Le vin d'Évreux commence à trouver ses lettres de noblesse 50 ans après les débuts du domaine des Arpents du Soleil. Au sud de Caen. La fête du vin qui ponctue les vinailles ou vendanges est l'occasion de mesurer les progrès de chacun et de rappeler le passé vinicole d'Évreux. Mais la pérennité de sa qualité n'est pas assurée. Le climat continue d'évoluer. Des tendances se dessinent. Là où il pleuvait beaucoup, les précipitations ont augmenté. Là où il pleuvait épisodiquement, il pleut rarement. Le réchauffement climatique n'a rien créé. Il amplifiait l'existant. Ces viticulteurs en herbe doivent composer également avec l'augmentation de la température moyenne et du nombre croissant de jours de forte chaleur. Ces jours de forte chaleur, qui se définissent par une température supérieure à 30 degrés, ne sont plus des événements rares, comme ils l'ont été dans les années 2000. On en enregistre 15 par an. L'année dernière, le thermomètre a dépassé ce seuil de 30 degrés 40 jours sur 3 mois. Le réchauffement en est la cause principale, mais aussi son amplification par le tissu urbain et l'activité humaine. Les termes de phénomène d'îlot de chaleur urbain qui qualifient cette amplification ont trouvé leur place dans le vocabulaire courant. Ce phénomène dépend de nombreux facteurs, les matériaux de construction, la morphologie urbaine telle que la largeur des rues, la hauteur des bâtiments, l'orientation des rues, la circulation des vents en milieu urbain et la part des surfaces urbaines imperméabilisées. L'un des effets est la dilatation des câbles électriques et par conséquent les risques d'accident et d'interruption de la distribution. Les organisateurs de la fête du vin ont dû redoubler d'efforts pour garantir sa tenue cette année. Les fortes pluies de mars ont provoqué des inondations importantes dans le centre-ville. Le niveau de Liton a bloqué les possibilités de passer de la Madeleine et Nétreville à Saint-Michel par le centre-ville. La circulation a été modifiée, conformément au plan de prévention des risques d'inondation. Elle a été dirigée vers la voie de contournement ouest. Cet afflux important et la vitesse maximale limitée à 30 km/h pour réduire les gaz à effet de serre ont provoqué un engorgement pendant plusieurs jours. Les inondations constituent la principale contrainte au bon fonctionnement du réseau généralisé de transport en commun. Depuis 20 ans, les moyens de transport en commun se sont diversifiés. La plus grande initiative et innovation a été l'installation de deux néofuniculaires, l'un entre Saint-Michel et le centre-ville, sur la côte Aimont-d'Huy, interdite à la circulation depuis le début des travaux, et l'autre entre le centre-ville et le Closoduc, sur les rues Roosevelt et Churchill. Ces deux équipements adaptés au transport de vélo sont liés à un réseau périphérique de transport en commun. Dans chaque quartier, des voies réservées ont été créées en réduisant l'emprise de la voiture. Heureusement, la dernière fête du vin a bien eu lieu. Et bien sûr, Principe Actif avait son stand.
Merci Jérôme pour ce tableau peut-être un peu noir de nos futures années, cette année 2050 à Évreux qui, je l'espère, sera soit ensoleillée, mais peut-être pas à ce point-là. Et tu t'es appuyé sur les directives du GIEC pour construire ton scénario. Et aujourd'hui, je crois que ces directives ne font pas l'unanimité auprès des scientifiques. Nous avons entendu Claude Allègre. Mais il n'y a pas que sa voix qui s'élève. Je crois qu'il y a d'autres voix qui participent à remettre en cause l'analyse du GIEC.
Effectivement, Fred, nous pouvons voir qu'il y a certains éléments de la controverse du réchauffement climatique qui n'ont toujours pas été tout simplement résolus. Alors, il y a sûrement une question fondamentale à ce débat de fond. C'est cette question, l'activité humaine contribue-t-elle de façon significative, voire déterminante, au réchauffement climatique observé? Aujourd'hui, la plupart des climatologues et spécialistes du sujet disent oui, nous sommes la cause de ce réchauffement climatique, nous les hommes, notre activité sociale et économique. Mais la science ne se décide pas à la majorité. En effet, nombre d'experts contestent ces affirmations. Alors, de là à dire qu'ils sont tous des Galilées, c'est un pas que nous n'allons pas franchir ce soir, je vous rassure. Mais des théories scientifiques faisant consensus ont été remises en cause. Souvent, des minoritaires ont finalement eu raison contre des courants majoritaires. Sans reprendre l'exemple de Galilée ou de la gravité, Newton et Einstein, on peut parler d'Alfred Wegener, un Allemand qui est à l'origine de la théorie de la dérive des continents. Cet homme, à partir des débuts du siècle 1910, a établi sa théorie en contradiction avec la théorie communément majoritaire qui pensait que les montagnes étaient simplement un froissement dû au changement de froid-chaud sur la planète Terre. Et cet homme-là, suite à une observation, en se rendant compte que les fossiles étaient similaires sur les divers continents, a commencé à ébaucher sa théorie qui est aujourd'hui confirmée.
Alors, par rapport à ça, il y a deux choses par rapport au discours du GIEC. Il y a déjà l'idée du réchauffement climatique qui, même en 2009, dans les propos de Claude Allègre, ne semblait pas être prouvée et acceptée. Et là, finalement, tout le monde semble accepter cette idée qu'il va y avoir un réchauffement climatique. Après, la question va être de son ampleur et de son amplitude. Et après, la question, en effet, qui pose le plus problème, c'est de savoir comment la part humaine rentre dans ce réchauffement climatique et notamment à travers la production de CO2.
Alors, là, Fred, tu soulèves un débat qui est intéressant parce que justement Claude Allègre nie l'influence de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Alors effectivement, il y a eu un réchauffement climatique qui a été analysé, observé, et d'ailleurs un des arguments de Claude Allègre est que depuis les 10 dernières années, ce réchauffement climatique ne se confirme pas forcément. Et là, on rentre justement dans la rhétorique de Claude Allègre, qui, par une période très faible de 10 ans, essaye de mettre à mal toute la théorie du GIEC, alors que l'étude du climat, justement, se fait à la base à partir de périodes sur 30 ans.
Oui. Et voilà. Et Claude Allègre, dans son intervention, était dans l'observation. Regardez, il a fait froid hier, alors forcément, il n'y a pas de réchauffement.
Ça, c'est le cas typique de l'argumentation, justement, pour déconstruire, en fait, l'argumentation du GIEC. On fait une comparaison entre la météorologie et la climatologie. Et cette grande différence est que, en fait, dans l'étude du climat, on va étudier, en fait, les grands paramètres, ce qui n'annule pas les fluctuations aléatoires du climat. Donc, d'ailleurs, on peut le voir même tous les jours en France. La température à Paris ou à Marseille ne va pas être la même, nous n'allons pas avoir le même temps, pourtant on est dans le même climat à peu près tempéré, etc. La météo, c'est sûr, c'est très difficile à définir, il y a plein de paramètres, et l'argumentation d'Allègre est de dire que le chaos, on peut représenter ça comme un chaos d'analyse, de données, est impossible à modéliser numériquement, et donc les modèles numériques qui sont faits, qui permettent de faire les prévisions actuelles du GIEC, sont tout simplement des affabulations, et on... finalement aussi peu de vérité scientifique que peut l'avoir des certaines théories économiques.
Mais derrière les propos de Claude Allègre, enfin pour autour de Claude Allègre, il existe aussi des gens, notamment les gens qui travaillent sur le soleil, qui expliquent aussi des causes du réchauffement climatique qui ne sont pas forcément liées à l'activité humaine. Et je pense qu'il aussi, enfin, on s'appuie là-dessus. À un moment, moi, dans l'interview de Claude Allègre, il parle du doute. Et évidemment, le doute est une chose importante en science. Mmh. Et en effet, par rapport au scénario du GIEC, le GIEC fait un travail quand même assez important. Il échelonne, je crois, au total 6 scénarios. Et chacun de ces scénarios sont expliqués, épluchés, avec vraiment des...
Permettez-moi d'intervenir, Fred et Kevin. Donc effectivement, c'est épluché et en plus après le GIEC fait valider en fait ces scénarios et les résultats donc par 40 académies de scientifiques à travers le monde.
Alors, il faut savoir que dans le domaine en fait scientifique, le débat est beaucoup plus intéressant que le débat qu'on peut avoir dans les mass médias ou à la télévision. Le débat ne se contente pas simplement d'être pour ou contre ou être d'accord ou pas sur le réchauffement climatique. Et je pense que la prestation d'Allègre ou son bouquin qui était L'imposture climatique, je crois, qui a été démonté après par le journaliste de Libération, Huet, ce sont des bouquins qui sont plutôt polémiques, plus que réellement intéressants d'un point de vue scientifique. Le problème avec le GIEC, c'est qu'effectivement, il faut toujours une part de doute en science, mais le GIEC intègre une donnée politique que normalement la science ne peut pas se permettre d'intégrer. La science n'est pas porteuse de sens. Les scientifiques peuvent parler au nom de la science, mais leur qualité de travail ne permettent pas de comment décider d'agir. Et c'est un rôle de politique.
Oui, mais c'est-à-dire le GIEC a été créé pour ça. C'est-à-dire que le GIEC est une institution qui est là pour utiliser les résultats scientifiques pour essayer de prévoir l'avenir.
Exactement.
Et en même temps, moi, par rapport à leurs travaux,
je trouve... un travail de compilation, en fait.
Oui. Oui, de compilation, mais je veux dire, il laisse quand même plusieurs portes ouvertes. C'est-à-dire ils sont pas seulement dans... Ils donnent plusieurs scénarios. C'est très pointu. Et je veux dire, l'évolution du climat jusqu'en 2100, ça va de plus. Jérôme, c'est plus 4, non ? Au minimum.
L'intervalle, c'est 1,8 degré à 4.
Voilà.
Ça dépend des scénarios, puisque les plus alarmistes vont jusqu'à un réchauffement de plus 6 degrés.
Voilà. C'est pour ça que dans le débat scientifique, la question n'est pas savoir est-ce que le réchauffement climatique a lieu ou pas, c'est plutôt savoir que faire. C'est ça la grande question, parce qu'on peut vérifier des données, des informations, mais tout le problème est dans l'interprétation.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Parce que si on appuie le...
Il y a plusieurs démarches. Il y en a qui pensent limiter le CO2, qui pensent déjà à des méthodologies pour comment capter le CO2. En fait, on a identifié des possibilités, des conséquences qu'on peut juger négatives. Négatives, mais pour l'espèce humaine, je le rappelle. Je le rappelle très bien, parce que la Terre va très bien s'en sortir. Les dinosaures, ils ont disparu, l'homme pourra disparaître, mais la Terre sera toujours là. Donc, dans le sens où on considère que les humains doivent rester sur Terre et qu'on doit gérer cet effet-là, il y en a qui pensent mettre tout de suite en œuvre des recherches pour arriver à prendre ces résultats négatifs futurs qui vont sûrement arriver et comment faire avec. Et d'autres pensent justement limiter la production de ces effets tout de suite. Ce sont des démarches différentes et ça, c'est réellement les questionnements différents qu'il y a dans le débat scientifique et pas seulement dire oui, réchauffement et pas réchauffement.
Alors, en sachant que pour moi, je veux dire que l'activité humaine et les réflexions humaines aillent vers la préservation de l'espèce humaine me paraît quand même un point important et que tous ensemble, on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire justement dans la mesure où ce changement climatique soit la conséquence de notre comportement, il est important qu'on puisse changer notre comportement pour essayer de modifier les choses.
Donc justement, là je voulais rebondir parce que là on a un petit problème de micro.
Jérôme voulait la parole en fait.
Ah Jérôme, pardon.
Oui, juste pour préciser, mais c'est vrai qu'on pourrait être fataliste, à vrai dire. Il y a des cycles géologiques, des cycles tectoniques à plusieurs centaines de millions d'années. Il y a des cycles solaires, etc. Qu'est-ce qu'on est au bout du compte ? Et Kevin, tu l'as souligné, mais à vrai dire, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quasiment, c'est peut-être ambitieux, mais de préserver la race humaine.
Alors. Moi personnellement, je pense pas que autour de ce plateau, on va pouvoir définir la véracité scientifique du réchauffement climatique. Je pense pas qu'on aura les compétences, mais en tout cas, on peut en discuter et faire part aux auditeurs de l'ensemble en fait des données qu'on peut avoir accès. C'est un débat où la passion est rentrée dans le débat, et c'est pour ça que maintenant c'est un débat où la science est sortie de ses gonds. Il y a pas mal de scientifiques qui se mettent en colère entre eux. Parce que simplement, un de leurs compères remet en doute l'interprétation ou remet en doute même la prise d'information ou la qualité de leur travail. Mais pas forcément la finalité du travail, qui est le réchauffement climatique. D'où la colère de certains scientifiques qui disent « Oui, ok, bon, tu remets ça en cause, mais quid de la responsabilité future pour les générations futures, de la responsabilité tout simplement politique par rapport à la prise de décision ?» Car on a une échéance, 2050-2100, où plus on avance, bah plus on va avoir des conséquences graves. Donc il commence à avoir un décalage où en fait on arrive à une sorte de militantisme de certains scientifiques qui décident d'agir par rapport aux informations qu'on a actuellement, et d'autres scientifiques qui parlent seulement au nom de la science et qui rentrent justement dans la controverse de cette politique. Jérôme ?
Alors l'enjeu à court terme, si on peut dire, on peut parler de court terme, mais là on est à l'échelon, à l'échelle humaine, c'est quand même aujourd'hui les conséquences dès aujourd'hui du réchauffement climatique. Je parlais dans la petite fiction de 4% de la population française qui était morte à cause du froid, donc au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, pardon. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, il y a des conséquences sur la mortalité par le réchauffement climatique. Il y a des personnes qui meurent à cause du réchauffement climatique. Alors, dans différentes situations, inondations, des personnes qui ont des problèmes cardiaques, etc. Ça, l'enjeu, il est quand même à court terme. Alors, est-ce que ce débat scientifique, bon, c'est pas justement des débats de personnes qui sont dans leur bulle?
Alors, dans ce cas-là, oui, effectivement, mais les gens meurent de faim depuis bien longtemps et on n'a jamais créé un groupe qui permette de nourrir la Terre entière, juste d'un point de vue humaniste. Et c'est d'ailleurs d'où l'importance, on peut se poser des questions sur peut-être des attraits de certains lobbying occidentaux dans ce réchauffement climatique. On pourrait voir l'Occident qui essaierait de garder une maîtrise technologique sur une maîtrise de la gestion de l'environnement et en instaurant en fait des nouvelles normes, des normes qui permettent tout simplement de faire des barrières économiques et de limiter l'intrusion des économies émergentes de la Chine, de l'Inde. Aller parler aux millions de Chinois et d'Indiens et les empêcher à se développer, alors que nous, on s'est réellement beaucoup développé grâce à ça. Enfin, ça me semble un peu...
Je crois que c'est une limite un peu qui est donnée au GIEC par rapport aux conseils qui sont donnés, notamment par rapport aux pays émergents qui refusent un peu de rentrer dans les prérogatives du GIEC en disant, écoutez... avant de nous dire de le faire, faites-le. C'est-à-dire, rentrez-vous dans les dispositifs. Mais on sait aussi que en France, par exemple, il y a des constats qui sont faits pour des lois simples qui pourraient permettre de limiter notamment l'émission de carbone. Donc, il y a la fameuse taxe carbone dont on entend parler assez régulièrement. La taxe carbone, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été mis en avant en 98 au niveau du protocole de Kyoto. Et cette taxe a un double but. Elle a un but de décourager les émissions polluantes en faisant payer ceux qui polluent en fonction de leurs émissions. C'est le fameux principe pollueur-payeur. Mmh. Et ensuite, c'est d'induire une évolution des comportements en augmentant le prix des ressources polluantes. On espère que les gens s'orientent vers les autres solutions qui sont moins polluantes. Le bienfait de cette taxe n'est quasiment plus remis en cause au niveau politique, c'est-à-dire qu'il a été amené en 2000 par le gouvernement Jospin, en 2009...
Il te reste une minute.
Par le gouvernement, en 2009, par le gouvernement Sarkozy. Sarkozy avait comparé la mise en place de cette taxe à la loi sur l'abolition de la peine de mort, pour dire que quand même pour lui c'était quelque chose d'essentiel à la démocratie française, et finalement elle a été rebootée très peu de temps après. Là aujourd'hui, c'est une des annonces du gouvernement Hollande dans le cadre de la fiscalité écologique. Elle devait apparaître dans le rapport Gallois, mais Gallois, qui a été si courageux pour mettre en avant des choses au niveau économique, pour les patrons, tout ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas mis en place. Il a dit, moi, je ne veux pas intervenir sur le diesel, c'est un sujet trop compliqué. Gallois, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui arrive, enfin, on pourrait l'espérer plus courageux. Et Jean-Marc Ayrault renvoie la fiscalité écologique à l'horizon 2016, donc à la fin du quinquennat, et en gros en sortie en disant on va pas le faire. Quoi. Et je pense que ça nécessite des décisions politiques courageuses. D'autres pays l'ont mise en place, mais cette volonté-là, elle n'est pas encore en France.
Mais je me permets de rappeler que pour le réchauffement climatique, c'est une décision politique mondiale qu'il faut, et ça, pour l'instant, ça reste très hypothétique.
Merci Kevin, merci Fred. Fred, quelques mots pour conclure.
Au revoir,
mais peut-être une annonce déjà rappeler les principaux thèmes qu'on a abordés. Bien sûr, une belle fiction sur l'année 2050 à Évreux, en espérant une fête du vin pour ceux qui seront encore là.
Hein. Alors, je rappellerai qu'il existe une fête du vin national au mois de novembre pour un vin qui n'est pas le Beaujolais. Hein nous avons écouté Jérôme pour une fiction sur Évreux en 2050.
Cette fiction d'anticipation sur Évreux, c'est quand même rare pour le souligner.
Et après, bah, au niveau de la donc, musique, je te laisse la parole.
Donc plusieurs, on indiquera, on mettra sur le site internet, notamment sur la page de l'émission, plusieurs liens, notamment.
Peut-être le podcast.
Peut-être le podcast, notamment celui-ci.
Si la technologie ne résiste pas.
Quelques mots pour vous présenter les groupes qu'on a écoutés, à commencer par The Miserable Witch, avec le morceau Rigging the Changes. On a écouté aussi Yetilin, groupe français, Sparkling Sunbeam, et puis A.A. Bondy sur un très bon conseil de Lolo, il se reconnaîtra. Et dernier morceau, The Chains, qu'on ne présente plus, avec son morceau The Rifle Spiral.
Et je me permets, Jérôme, de préciser que le fond musical lors de ton intervention était la bande originale de Take Shelter, magnifique film que je vous conseille tous de voir.
Et la prochaine, c'est quand ?
La prochaine, toujours deuxième vendredi du mois. Donc, sortez
où ça ?
Le calendrier. Sur Principe Actif, bien sûr.
Ciao, ciao.
Qui sera là encore demain. Merci, Gonzalo, pour la technique. À bientôt à tous.
Au revoir.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif.